Arsène Lupin mâchonna un juron. Dobrec parlait, et lui, Lupin, ne pouvait pas l'entendre. Il avait beau prêter l'oreille, étouffer les battements de son cœur et le bourdonnement de ses tempes, aucun son ne parvenait jusqu'à lui. Crénom d'un nom, je n'avais pas prévu cela. Que faire ? Il fut sur le point de braquer son revolver et d'envoyer à Dobrec une balle qui couperait court à toute explication. Mais il songea que lui non plus n'en saurait pas davantage et qu'il valait mieux s'en remettre aux événements pour en tirer le meilleur parti. En bas, cependant, la confession se poursuivait, indistincte, entrecoupée de silence et mêlée de plaintes. D'Albufex ne lâchait pas sa proie. Encore ! Achève donc ! Et il ponctuait les phrases d'exclamations approbatives. Bien ! Parfait ! Pas possible ! Répète un peu, Dobrec. Oh, ça c'est drôle ! Et personne n'a eu l'idée, pas même Praville. Quel idiot ! Desserre donc, Sébastien. Tu vois bien que notre ami est tout essoufflé. Du calme, Dobrec. Ne te fatigue pas. Et alors, cher ami, tu disais... C'était la fin. Il y eut un chuchotement assez long que d'Albufex écouta sans interruption et dont Arsène Lupin ne put saisir la moindre syllabe. Puis le marquis se leva et s'exclama d'une voix joyeuse. Oh, « Ça y est oh, merci, Dobrec. Et crois bien que je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Quand tu seras dans le besoin, tu n'auras qu'à frapper à ma porte. Il y aura toujours un morceau de pain pour toi à la cuisine et un verre d'eau filtrée. Sébastien, soigne monsieur le député absolument. » Comme si c'était un de tes fils. Et tout d'abord, débarrasse-le de ses liens. Oh, il ne faut pas avoir de cœur pour attacher ainsi un de ses semblables, comme un poulet à la broche.
Si on lui donnait à boire.
C'est ça. Donne-lui donc à boire. Sébastiani et ses fils défirent les courroies de cuir, frictionnèrent les poignets endoloris et les entourèrent de bandes de toile enduites d'un onguent. Ça va mieux. Bah, ce ne sera rien. Dans quelques heures, il n'y paraîtra plus et tu pourras te vanter d'avoir subi la torture, comme au bon temps de l'Inquisition. Vénard. Il consulta sa montre. Assez bavardé, Sébastien. Que tes fils le veillent à tour de rôle. Et toi, conduis-moi jusqu'à la station pour le dernier train.
Alors, monsieur le marquis, nous le laissons comme ça, libre de ses mouvements.
Et pourquoi pas? T'imagines-tu que nous allons le tenir ici jusqu'à sa mort? Non, Dobrec, sois tranquille. Demain après-midi, j'irai chez toi. Et si le document se trouve bien à la place que tu m'as dite, aussitôt un télégramme et on te donne la clé des champs. Tu n'as pas menti, hein? Il était revenu vers Dobrec. Et de nouveau courbé sur lui. Pas de blague, n'est-ce pas? Ce serait idiot de ta part. J'y perdrais un jour, voilà tout. Tandis que toi, tu y perdrais ce qui te reste de jours à vivre. Mais non, la cachette est trop bonne. On n'invente pas ça pour s'amuser. En route, Sébastien. Demain, tu auras le télégramme. « Et si on ne vous laisse pas entrer dans la maison, monsieur le marquis ?»«
Pourquoi donc ?»« La maison du square Lamartine est occupée par les hommes de Praville. »«
Ne t'inquiète pas, Sébastien, j'entrerai. »« Et si on ne m'ouvre pas la porte, la fenêtre est là. »« Et si la fenêtre ne s'ouvre pas, je saurai bien m'arranger avec un des hommes de Praville. »« C'est une question d'argent. »« Et Dieu merci, ce n'est pas ça qui manquera désormais. » « Bonne nuit, Dobrec !»
Il sortit, accompagné de Sébastiani, et le lourd battant se referma. Aussitôt, et d'après un plan conçu durant cette scène, Lupin opéra sa retraite. Ce plan était simple. dégringoler à l'aide de sa corde jusqu'au bas de la falaise, emmener ses amis avec lui, sauter dans l'auto et, sur la route déserte qui conduit à la gare d'Aumale, attaquer d'Albufex et Sébastiani. L'issue du combat ne faisait aucun doute. D'Albufex et Sébastiani prisonniers, on s'arrangerait bien pour que l'un d'eux parlât. D'Albufex avait montré comment on devait s'y prendre. Et pour le salut de son fils, Clarisse Mergy saurait être inflexible. Il tira la corde dont il s'était muni et chercha à tâtons une aspérité du roc autour de laquelle il put la passer, de manière à ce qu'il en pendît deux bouts égaux qu'il saisirait à pleine main. Mais lorsqu'il eut trouvé ce qu'il lui fallait, au lieu d'agir, et rapidement, car la besogne était pressée, il demeura immobile, à réfléchir. Au dernier moment, son projet ne le satisfaisait plus. Absurde ! Ce que je vais faire est absurde et illogique. Qu'est-ce qui me prouve que D'Albufex et Sébastiani ne m'échapperont pas ? Qu'est-ce qui me prouve même qu'une fois en mon pouvoir, ils parleront ? Non, je reste. Il y a mieux à tenter, beaucoup mieux. Ce n'est pas à ces deux-là qu'il faut s'attaquer, mais à Dobrec. Il est exténué, à bout de résistance. S'il a dit son secret au marquis, il n'y a aucune raison pour qu'il ne me le dise pas, quand Clarisse et moi nous emploierons les mêmes procédés. Adjugé, enlevons Dobrec. Et il ajouta en lui-même, « D'ailleurs, qu'est-ce que je risque ? Si je rate le coup, Clarisse Mergy et moi nous filons à Paris, et de concert avec Praville, nous organisons dans la maison du square Lamartine une surveillance minutieuse, pour que D'Albufex ne puisse profiter des révélations que Dobrec lui a faites. L'essentiel, c'est que Praville soit prévenu du danger. Il le sera. » Minuit sonnait alors à l'église d'un village voisin. Cela donnait à Lupin 6 ou 7 heures pour mettre à exécution son nouveau plan. Il commença aussitôt. En s'écartant de l'orifice au fond duquel s'ouvrait la fenêtre, il s'était heurté dans un des creux de la falaise à un massif de petits arbustes. À l'aide de son couteau, il en coupa une douzaine, qu'il réduisit tous à la même dimension. Puis, sur sa corde, il préleva 2 longueurs égales. Ce furent les montants de l'échelle. Entre ces montants, il assujettit les 12 bâtonnets, et il confectionna ainsi une échelle de corde de 6 mètres environ. Quand il revint à son poste, il n'y avait plus, dans la salle des tortures auprès du lit de Dobrec, qu'un seul des 3 fils. Il fumait sa pipe auprès de la lampe. Dobrec dormait. « Fichtre, ce garçon-là va-t-il veiller toute la nuit ? En ce cas, rien à faire qu'à m'esquiver. » L'idée qu'Albufex était maître du secret le tourmentait vivement. De l'entrevue à laquelle il avait assisté, il gardait l'impression très nette que le marquis travaillait pour son compte et qu'il ne voulait pas seulement, en dérobant la liste, se soustraire à l'action de Dobrec, mais aussi conquérir la puissance de Dobrec et rebâtir sa fortune par les moyens mêmes que Dobrec avait employés. Dès lors, c'eût été pour Lupin une nouvelle bataille à livrer à un nouvel ennemi. La marche rapide des événements ne permettait pas d'envisager une pareille hypothèse. À tout prix, il fallait barrer la route au marquis d'Albufex en prévenant Praville. Cependant, Lupin restait, retenu par l'espoir tenace de quelque incident qui lui donnerait l'occasion d'agir. La demie de minuit sonna, puis 1 heure. L'attente devenait terrible, d'autant qu'une brume glaciale montait de la vallée et que Lupin sentait le froid pénétrer en lui. Il entendit le trot d'un cheval dans le lointain. Voilà Sébastiani qui rentre de la gare. Mais le fils qui veillait dans la salle des tortures, ayant vidé son paquet de tabac, ouvrit la porte et demanda à ses frères s'ils n'avaient pas de quoi bourrer une dernière pipe. Sur leur réponse, il sortit pour aller jusqu'au pavillon. Et Lupin fut stupéfait. La porte n'était pas refermée que Daubrec, qui dormait si profondément, s'assit sur sa couche, écouta, mit un pied à terre, puis l'autre pied, et debout, un peu vacillant, mais plus solide tout de même qu'on eût pu le croire, il essaya ses forces. Allons, le gaillard a du ressort. Il pourra très bien contribuer lui-même à son enlèvement. Un seul point me chiffonne. Se laissera-t-il convaincre? Voudra-t-il me suivre? Est-ce qu'il ne croira pas que ce miraculeux secours qui lui arrive par la voie des cieux est un piège du marquis? Mais tout à coup, Lupin se rappela cette lettre qu'il avait fait écrire aux vieilles cousines de Daubrec. Cette lettre de recommandation, pour ainsi dire, que l'aînée des deux sœurs Rousselot avait signée de son prénom, d'Euphrasie. Elle était là, dans sa poche. Il la prit et prêta l'oreille. Aucun bruit, sinon le bruit léger des pas de Daubrec sur les dalles. Lupin jugea l'instant propice. Vivement, il passa le bras entre les barreaux et jeta la lettre. Daubrec parut interdit. L'enveloppe avait voltigé dans la salle et elle gisait à terre, à trois pas de lui.